C'est que je viens sur Dine, c'est qu'on va commencer notre étude. Comme j'ai dit tantôt, on va la semaine prochaine, lundi soir prochain, on serait à Rivière-du-Loup en présence, mais on va le diffuser sur Zoom aussi. Mais ce serait Mike Atwood qui va être avec moi. C'est lui qui va parler, puis je vais le traduire. Il va parler en anglais, mais je vais le traduire en français. Ce ne sera pas nécessairement sur les fêtes de l'Éternel, ou peut-être je lui demanderai s'il veut apporter quelque chose sur les fêtes, mais on va le faire lundi soir à la même heure, la semaine prochaine, le 9 d'octobre, puis on va le diffuser sur Zoom pour tout le monde. Fait que c'est la même chose, ça va être le même lien, toute la même façon, sauf que là-bas, on va faire du loup en présence. Donc, peut-être avant de commencer, on va avoir un mot de prière, puis ensuite on va commencer notre étude. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier encore ce soir du privilège qu'on a de pouvoir se tourner vers toi et de pouvoir apprendre de ta parole, Seigneur. On te remercie pour toutes les choses que tu nous fais connaître dans ta parole par rapport à ta pensée, Seigneur. C'est ta pensée qui nous est révélée. Par ton esprit, on te demande de nous aider à comprendre ces choses, puis afin que ça puisse nous aider à être sanctifié, à être transformé, Seigneur, pour qu'on puisse de plus en plus t'aimer, puis aussi de plus en plus que notre vie soit changée pour être plus semblable à l'image de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. On te remercie encore une fois, Seigneur, puis merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Donc, on va lire encore on est dans les fêtes de l'Éternel. On va lire premièrement dans le Lévitique. On va lire au chapitre 23 du Lévitique. Puis ce soir, on va finir la fête de la Pâque. Puis on va entrer dans la fête des pains sans levain. Fait qu'on va, comme, on va lire dans le chapitre 23 de Lévitique. On va commencer au chapitre 4. On avait déjà vu le sabbat. Et on voit maintenant dans le chapitre 4, dans le chapitre 23, le verset 4, excusez-moi. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez. Le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'aide des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. On va aller aussi dans le livre de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, on va aller au chapitre 12. Comme on avait lu la dernière fois par rapport à la Pâques, c'est là que la Pâque a été instituée. La première fois qu'elle a été célébrée, c'était ensuite quand ils sont entrés, quand il y a eu le tabernacle, puis ça se faisait l'Éternel établit Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: ce mois, on prend un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. OK? Donc, on va s'arrêter là pour peut-être le premier mois, le 14e jour du mois au soir. Vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Puis, on va s'arrêter là pour la lecture de la parole ce soir. Puis, on va continuer. On était dans la fête de la Pâque. On avait vu que le Seigneur Jésus, pour nous, est la Pâque. Notre Pâque a été immolée. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui avait été envoyé pour nous sauver de nos péchés, pour être notre Pâque qui s'est offert lui-même pour nous. On avait vu que pendant tout son ministère public, les gens ont pu l'observer comme l'agneau de la Pâque qui était dans la maison à partir du 10e jour jusqu'au 14e jour, quand il serait immolé, et pour examiner s'il était vraiment sans défaut. Et le Seigneur Jésus était vraiment sans défaut, même on a vu qu'à la fin, même ceux qui l'accusaient, leur témoignage ne s'accordait pas. Puis même le Seigneur Jésus s'est tenu devant les chefs religieux, ceux qui voulaient le trouver en défaut, qui leur a dit: Qui de vous me convaincra de péché? Et personne n'a pu le convaincre de péché. Puis on avait vu à la fin, dans 1 Corinthiens 5 au verset 7, que car Christ, notre Pâque, a été immolé. Maintenant, on va dans le chapitre 12 de l'Exode, au verset 7, il nous est dit: On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, il fallait une chose, c'était bien beau tout ça, mais il fallait bien que le sang soit appliqué sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Puis ça, c'est important parce que, vous savez, il y a bien des gens aujourd'hui qui se disent religieux, ils nous parlent comme s'ils connaissent Dieu, comme s'ils sont en relation avec Dieu, ils croient dans leur religion, que selon leur religion, ils ont un contact avec Dieu, ils sont en relation avec Dieu, mais une chose qui manque, ils peuvent parler, ils peuvent dire aimer le Seigneur et tout ça, ils peuvent, mais s'ils n'ont pas appliqué le sang, eh bien, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que le sang soit appliqué, puis le sang est appliqué sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Puis, mais il n'était pas sur le seuil, il ne devait pas mettre le sang sur le seuil. Quand on tombe dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 29, Hébreux 10 au verset 29, il dit: De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Vous savez, tous ces gens-là qui se disent en relation avec Dieu à cause de leur religion, dans un sens, c'est qu'ils tiennent pour profane le sang de l'alliance. Le Seigneur, lui, qui nous donne le salut, a décrété que ce serait avec le sang précieux de Christ qu'on serait lavé de nos péchés, pas par des bonnes œuvres, pas par une religion, pas par des choses que nous-mêmes ou notre religion aurait déterminées, mais c'est vraiment c'est Dieu qui donne les termes dans lesquels on peut être sauvé, comme Paul le disait aux Corinthiens. Il dit: Je vous ai annoncé avant tout que Christ est mort selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il dit: Vous êtes sauvés si vous avez cru dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, c'est important qu'on s'approche de Dieu sur la base que c'est lui qui détermine la façon qu'on doit être sauvé. Puis, ça prenait le sang précieux de Christ pour être sauvé. Mais il fallait que le sang soit appliqué sur les poteaux de la porte, sur le linteau. Il fallait que le sang soit appliqué. Ça, c'est la différence entre croire que Christ a existé. Bon, comme la parole de Dieu nous dit, tu crois en Dieu, les démons aussi, ils croient puis ils tremblent. C'est pas de croire que Dieu a existé. C'est pas même de croire que Christ a existé, qu'il a marché sur la terre. On peut croire toutes sortes de choses par rapport au Seigneur Jésus-Christ. On peut croire qu'il est mort pour les péchés du monde. Ces choses-là, on les croyait auparavant. Avant qu'on soit sauvé, on croyait à ces choses-là, la plupart de nous autres. Mais c'est même qu'il est mort sur la croix, c'est pas juste de croire qu'il est mort sur la croix, mais c'est de croire que lorsqu'il est mort sur la croix, il a versé son sang pour mes péchés. C'est pour ça qu'il y a des gens, on leur demande, crois-tu au Seigneur Jésus? Puis ils disent, ben oui, je crois. Es-tu sauvé? Ben, je pense bien. Ça, c'est pas la foi. C'est vraiment, il fallait appliquer le sang. Si quelqu'un croyait tout ce que le Seigneur avait dit, il immolait l'agneau, mais qui ne mettait pas le sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte, eh bien, ça ferait toute la différence. Parce que quand l'ange passerait, il fallait qu'il voie le sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Donc, c'est ça la différence. Ça, il y a bien des gens qui pensent peut-être même être sauvés ou ils sont pas sûrs, mais ils croient à ces choses-là. Mais il faut vraiment appliquer le sang, c'est-à-dire qu'il faut vraiment croire que quand le Seigneur Jésus a versé son sang, moi j'en avais besoin pour être lavé de mes péchés. J'en avais besoin. J'ai mis ma confiance dans son sacrifice, pas juste pour que mes péchés soient pardonnés. C'est là qu'on peut dire, vous savez, c'est quelque chose, la première fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont sauvés, la première fois que j'ai dit je suis sauvé. C'est quelque chose d'entendre, m'entendre dire je suis sauvé, mais c'est basé. Cette assurance-là est basée sur le fait qu'on a appliqué le sang, on a mis notre confiance dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui a versé son sang pour moi sur la croix du Calvaire. Et vous, dans l'Exode, au chapitre 12, les versets 12 à 13, on dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, il est bien clair que Dieu allait frapper toutes les maisons d'Égypte. Comme on a dit déjà, c'est que les Israélites étaient aussi pécheurs que les Égyptiens. Mais ce qu'il fallait pour qu'il puisse échapper au jugement, il fallait le sang, que l'ange, quand il passerait, il puisse voir le sang sur la porte et sur les poteaux de la porte et sur le linteau. Il dit, je passerai par-dessus. C'est ça en anglais, la porte, le mot c'est pass over, passer par-dessus. Donc, il passait par-dessus cette maison-là. On va voir, il y a des choses à apprendre par rapport à ceux qui étaient dans la maison. Vous savez, il y a des gens qui pouvaient avoir fait ce qui devait être fait. Ils pouvaient avoir pris l'agneau, choisi l'agneau, l'avoir immolé, avoir pris le sang, l'avoir mis sur les poteaux de la porte et sur le linteau de la porte. Puis ils étaient à l'intérieur de la maison. Puis il pouvait y avoir des gens qui étaient ils se sentaient en pleine sécurité parce qu'ils croyaient à la parole de Dieu. Il y avait l'assurance que l'ange allait passer par-dessus et qu'il n'y aurait pas de mort. Mais il y avait des gens qui pouvaient être peut-être dans la maison. Puis, penser, il y avait une certaine crainte parce qu'il y a des gens, des fois, qui ont des problèmes avec l'assurance de leur salut. Ils ont des doutes par rapport à l'assurance de leur salut. Mais si le sang avait été mis sur le linteau et sur les poteaux, ils étaient en sécurité. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous donne cette assurance-là. Puis, c'est merveilleux parce qu'on se fie à ce que Dieu a dit. Dieu l'a dit, je le crois. Puis ça me donne l'assurance quand je crois. Donc, la mort a passé dans tout le pays d'Égypte. Puis si on va dans le chapitre 12 de l'Exode, au verset 30, 29 à 30, il dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Il n'y avait pas une maison où il n'y avait pas de mort. Donc, il y avait des grands cris, puis il n'y avait pas une maison qui n'avait pas de mort. Mais qu'est-ce qui arrivait des Israélites? Ben, les Israélites, il y avait un mort aussi. C'était un agneau qui avait été exécuté. Son sang avait été mis sur les linteaux. Donc, le sang était là, il y avait déjà un mort. Il passait par-dessus. Vous savez, une façon qu'on décrit ou qu'on parlait dans les feux des prairies auparavant, il y avait des feux, puis les feux voyageaient. Ben, ça voyage encore, là. Quand le vent transporte le feu dans les prairies, ben, ça brûle. Puis les gens savaient que le feu s'en venait. Si le vent continuait de souffler dans la même direction, eh bien, leur bâtiment, leur ferme seraient toutes brûlées. Et vous savez, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas que le feu puisse brûler leur ferme, leur bâtiment et tout? Eh bien, avant que le feu arrive, ils brûlaient l'herbe, un grand cercle autour de leur ferme. Ils brûlaient toute l'herbe. Puis quand le feu arrivait à cette herbe-là qui était déjà brûlée, le feu faisait le tour. Puis ils étaient épargnés. C'était un peu comme la Pâque, là, parce que c'était déjà brûlé. Il avait déjà brûlé. Mais ainsi, ils pouvaient sauver les bâtiments de leur ferme. Et ils disent que il n'y avait pas une maison en Égypte où il n'y avait pas un mort. Mais dans les maisons des Israélites, il y avait un mort aussi, mais c'était un agneau qui était mort à leur place. Mais quand on pense aux Égyptiens, on voit c'était le premier-né qui était mort dans leur maison. Mais qu'est-ce que ça représente, le premier-né? Le premier-né, c'est tout un sujet dans la Bible. On ne va pas aller en profondeur dans ce sujet-là, mais le premier-né représente dans la Bible toute la bénédiction. C'est sur lui que vient toute la bénédiction de Dieu pour le reste de la famille. C'est important. Puis on voit des fois dans la Bible que le premier-né n'est pas nécessairement celui qui est né en premier, mais c'est une position. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous disent que le Seigneur Jésus est une créature de Dieu, parce qu'il dit qu'il est le premier-né de toute la création. Mais ce n'est pas parce qu'il a été créé, c'est parce qu'il a une position dans la création, dans cette nouvelle création-là, qui détient toute la bénédiction de Dieu en vue de cette nouvelle création-là. Puis le Seigneur Jésus est celui qui détient. C'est par lui, c'est lui qui est le canal par lequel toute la bénédiction de Dieu vient sur cette nouvelle création-là. C'est ça la position. C'est pas parce qu'il a été créé, mais c'est parce qu'il est en position de recevoir toute la bénédiction pour ensuite se déverser sur tous ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut. Donc ça, c'est le premier-né. Mais dans l'Égypte, tous les premiers-nés étaient morts. Ça voulait dire que c'était la malédiction sur l'Égypte parce que leur premier-né était mort. Puis quand on pense au Seigneur Jésus-Christ, dans Colossiens 1,15, il dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Puis dans le verset 18 de Colossiens 1, il dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc c'est une position de prééminence, le premier-né, ou ici, d'avoir la tête, c'est là que vient toute la bénédiction sur l'assemblée, comme ici, c'est pour dans le corps de l'Église, lui en est la tête. Donc, on voit que Paul il nous exhorte dans Colossiens 2, au verset 9 et 10, de regarder à lui. Dans Colossiens, au chapitre 2, et au verset 9 à 10, Paul nous dit de regarder à lui. 9 à 10, qui nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dites-vous que toutes les bénédictions sont en lui. Puis même dans Éphésiens, on voit dans Éphésiens au chapitre 1 que Paul dit aux Éphésiens, puis à nous aussi, il dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en lui, en Christ. On a eu toutes les bénédictions. Puis après ça, il va tout en énumérant les bénédictions spirituelles qui sont les nôtres. Mais il faut jamais oublier, il y a deux mots qui sont vraiment importants. Dans toutes ces bénédictions-là, on n'avait rien, on n'était pas dans ces bénédictions-là avant d'être en Christ, mais en Christ, on était bénis de toute bénédiction spirituelle. Puis regardez la liste dans Éphésiens 1, vous allez voir qu'il y a des gens qui utilisent ça pour dire qu'on n'avait pas ça. C'est comme si on l'avait avant d'être en Christ, mais on ne l'avait pas avant d'être en Christ. On n'était pas dans l'élection avant d'être en Christ. On a reçu cette élection-là quand on a été placé dans le Seigneur Jésus-Christ. Toutes les bénédictions spirituelles, donc, de lui découlent, parce qu'il est le premier-né, de lui découle toute la bénédiction qui vient de Dieu, tout ce qu'on peut recevoir de Dieu comme bénédiction spirituelle, eh bien, on la reçoit par Christ, parce que c'est lui qui est le canal qui nous amène la bénédiction de Christ. Donc, l'Égypte était jugée et Israël était épargné à cause de l'agneau qui avait été immolé à leur place. C'est pour ça qu'ils ont été épargnés. Donc, quand le sang est appliqué durant la nuit, quand l'ange a passé pour apporter la mort, et on voit au chapitre 22, chapitre 12 et verset 22 de l'Exode, il est dit ici, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc ça, c'est important. Mais il dit aussi, vous prendrez ensuite, attendez un petit peu, au verset 22, ouais, il dit, vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Mais regardez ce qu'il dit ici. Il dit, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. C'est important qu'il demeure dans la maison. Il fallait qu'il reste dans la maison. Pourquoi qu'il fallait qu'il reste dans la maison? Ben, c'était là l'endroit ce qui était sécuritaire. Parce que c'était cette maison-là qui était épargnée. L'ange passait par-dessus la maison où le sang était sur les poteaux et sur le linteau. Donc, il fallait être placé. Pourquoi qu'il fallait qu'il soit dans la maison? Mais ça représente une vérité spirituelle pour nous autres qui est très importante. C'est qu'il fallait qu'on soit baptisé dans la mort. Parce que la parole de Dieu nous dit que à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur avait dit à Adam, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Donc, pour nous, pour échapper à ce jugement, il faut qu'on soit dans cette mort-là, comme les autres, ils l'ont été dans cette mort-là. Ils ont été baptisés dans cette mort. On va aller dans Romains 6 pour voir ce baptême-là. C'est un baptême ici. Mais je sais qu'on utilise souvent ce passage-là pour illustrer le baptême d'eau. Puis c'est correct parce que ça représente, le baptême d'eau représente ce baptême-là. Mais je disais à quelqu'un qui il me disait qu'on était sauvés par le baptême, puis on regardait le Romains 6, puis j'ai dit, comment tu fais pour voir de l'eau dans ce passage-là? Moi, je n'en vois pas. Ben, il dit, comment tu fais pour pas l'en voir? J'ai dit, il n'est même pas mentionné, l'eau n'est même pas mentionnée dans ce passage-là. Passage-là de l'Écriture, dans le chapitre 6 de Romains, c'est on est baptisé, mais ce n'est pas dans l'eau. C'est un baptême qui est représenté ici par ces gens-là qui devaient rester dans cette maison-là où il y avait la mort avait passé dans cette maison-là. Ils devaient être baptisés dans cette mort-là. On va au chapitre 6 de Romains, au verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Voyez-vous, ici, c'est en Jésus-Christ, c'est pas dans l'eau. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, c'est une vérité très importante. Il fallait qu'on meure, puis qu'on meure avec Christ. Pourquoi? Mais qu'on puisse mourir avec Christ pour pouvoir revivre de nouvelles vies avec lui. Le baptême d'eau illustre ce baptême-là qui a eu lieu. Le baptême d'eau a lieu après. Mais le baptême ici, dont il est question, a Dieu au moment où nous mettons notre confiance dans l'agneau qui a été immolé pour nous, son sang a été versé pour nous sauver de nos péchés, bien, à ce moment-là, on est baptisé dans la mort de Christ. Comme les Israélites devaient rester dans la maison pendant que l'ange passait, la mort passait, et quand la mort passait, eux, ils étaient inclus dans cette maison-là où il y avait eu la mort. Et l'ange passait par-dessus eux. C'est la justice de Dieu. Il fallait qu'on meure. Et on est mort avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est important, ce baptême-là, pour comprendre aussi que la puissance de la vie chrétienne dépend de ce baptême-là. Comme eux, ils sont morts, puis ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont morts avec cette. Comme, ils ont été baptisés dans la mort de cet agneau-là pour ensuite sortir. On va voir quand on voit la fête des Pains sans levain que cette fête-là est attachée très étroitement avec la Pâque. Parce qu'elle commence au moment de la Pâque et elle se poursuit parce qu'elle a duré ce jour, on verra ça plus tard. Mais c'est important il fallait qu'on soit baptisé dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Puis Paul, il nous dit dans ce passage-là qu'on a été fait une même plante avec lui. C'est-à-dire qu'on a été mis avec le Seigneur Jésus-Christ, on a été identifié à lui, c'est ce que le baptême veut dire, c'est une identification. On a été identifié avec lui quand il est mort. C'est comme si on était en lui quand il est mort, il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour. C'est pour ça que maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'on a déjà passé par la mort. La mort, mais la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais ça, il y a beaucoup de vérité par rapport à ces choses-là. Parce que maintenant, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus, ils étaient le peuple de Dieu. C'était la naissance de la nation d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi pour se manifester sur la terre à travers ce peuple-là. Et maintenant, il lui appartenait. Et voyez-vous, il dit au verset 4, car nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. À cause de cette mort-là avec le Seigneur Jésus-Christ, on est mort à ce qu'on était en Adam, on est mort à ce que à notre ce qu'on était des pécheurs en Adam perdus, on est mort à ça pour maintenant vivre d'une vie nouvelle, la vie de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on vit il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et vous, eux, sortez de l'esclavage, parce que le jugement qui était venu sur l'Égypte, l'agneau avait été jugé pour eux, et eux, ils sortaient vivants du pays d'Égypte pur. On dit ça des fois, là, ils sortaient vivants du pays d'Égypte à la vue des Égyptiens. Pendant que les Égyptiens, eux, enterraient leurs morts. Quand Israël est parti d'Égypte, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient les Égyptiens qui étaient en train d'enterrer leurs morts. C'était des funérailles dans chaque maison. Mais eux, ils sortaient vivants de travers la mort. C'est comme si ils marchaient vivants, ils sortaient de cette scène de mort-là, mais eux, ils étaient vivants. Ça parle de résurrection, là. C'est pour ça que nous autres aussi, on est sortis de ce monde qui est dans la mort, sont morts spirituellement, puis nous, on est sortis vivants parce qu'on a été baptisés dans la mort de Christ, on a été ensevelis et qu'on est ressuscités en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important, ça, c'est des vérités qu'on n'a pas à rechercher, c'est des vérités qui sont les nôtres quand on a vraiment reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Mais il faut maintenant vivre selon la réalité en prenant en compte la réalité de cette expérience-là que nous avons vécue de mourir avec Christ et d'être ressuscité avec lui. Donc, il dit ici, oh, si nous sommes morts avec Christ, le verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il ne fait plus de péché. Moi, je disais ça des fois. Mon grand-père, il a arrêté de boire, il a arrêté de fumer dans la même journée, quand il est mort. Mais c'est pour ça, quand on est mort, on ne fait plus de péché parce qu'on est mort. Mais là, on est mort au péché. Comme si on a vécu cette mort-là dans le baptême, dans la mort du Seigneur Jésus-Christ. Puis, on est ressuscité avec lui pour une vie nouvelle. Maintenant, on doit vivre cette réalité-là dans nos vies. Donc, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est plus nous autres, comme Paul il disait, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est ça la réalité de ce que Paul dit ici. Ça sent que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, ça nous a séparés de la mort, d'être baptisés dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, parce que Christ, il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Jamais plus le Seigneur Jésus-Christ va mourir. Puis ça, c'est une réalité pour nous autres dans nos vies. On doit vivre dans cette réalité-là, puis connaître la victoire sur le péché à cause de cette réalité-là. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc maintenant, regardez-vous, ça veut dire, donc maintenant, prenez en compte, regardez le fait que dans la réalité spirituelle, vous êtes mort au péché, vous êtes mort à votre ancienne vie, pour maintenant ne plus être des esclaves en Égypte comme les Israélites, mais d'être maintenant un peuple libre. Un peuple libre, mais un peuple libre de servir au Seigneur. On n'est pas cette liberté-là, on l'utilise pour vivre maintenant pour le Seigneur. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. En Jésus-Christ, je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Regardez ce qu'il dit au verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc ça, c'est des vérités qui sont vraiment importantes pour qu'on puisse connaître la victoire sur le péché dans nos vies. Donc on reconnaît, on a passé par cette mort-là, ayant été baptisé dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, puis maintenant on est ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Vous savez, c'est un peu comme Barabbas. Hein? Barabbas, s'il était vivant, c'est parce que Christ était mort à sa place. Lui, il était vraiment, c'est lui qui devait être sur la croix du milieu. C'était sa croix à lui. Puis lui, il était le chef là, des brigands. Il s'est en allé libre, mais Christ est mort à sa place. Donc vraiment, la vie qu'il vivait maintenant, on ne sait pas comment il a vécu sa vie, Barabbas. La Bible ne nous dit pas. Mais maintenant, ce n'était plus sa vie qu'il vivait. Il vivait de la vie du Seigneur Jésus-Christ parce que lui, il était mort à sa place. Puis parce que le Seigneur Jésus est mort à sa place, ben lui maintenant, il était libre, il était vivant, il n'y a plus s'en aller, personne ne pouvait l'accuser, mais il aurait dû vivre pour le Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous autres aussi, parce qu'on est mort avec le Seigneur Jésus-Christ, on a été ensevelis avec lui, puis qu'on est ressuscité pour vivre en nouveauté de vie, ben c'est ça qu'on devrait faire. À la lumière de cela, on devrait vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on va peut-être commencer un petit peu sur la fête des pains sans levain, puis on va juste peut-être faire l'introduction à cette fête-là. Donc, ça, c'était pour la Pâque représentant notre agneau a été immolé, Paul le dit aux Corinthiens, car Christ, notre agneau, a été immolé. Célébrons donc la fête avec les pains sans levain, puis il va nous décrire ces choses-là. La fête des pains sans levain, maintenant, comme on a vu, comme on a lu dans l'Exode et aussi dans le Lévitique, cette fête-là maintenant dure 7 jours. Il y a cinq fêtes dans les fêtes de l'Éternel, il y en a sept en tout, mais il y a cinq fêtes qui durent un jour. Mais il y a deux fêtes qui durent 7 jours. Donc, il y a une raison pour ça. Les fêtes qui durent un jour représentent l'œuvre de Dieu accomplie parfaitement sans avoir besoin d'être répété. Comme on a vu la fête de la Pâque, Christ a été immolé une fois, n'a pas besoin d'être répété, mais la réalité va se vivre sur une période ici qui est représentée par cette période-là de 7 jours, 7 qui est le chiffre qui est complet, le chiffre de la perfection. Donc, ça représente la fête des pains sans levain, on va voir, représente notre vie à partir du moment où on a été racheté par le Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où on a été baptisé dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, on a été enseveli, on est ressuscité le troisième jour avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand on a mis notre confiance en lui pour le salut de notre âme, pas juste croire qu'il existait, mais de croire que quand il a versé son sang pour moi, eh bien, moi, j'ai été libéré, j'ai été sauvé de mes péchés. C'est ça la réalité. Quand on dit qu'on croit, là, ben, on croit qu'est-ce que Dieu dit. Il dit que si on s'est repenti puis qu'on a mis notre confiance dans le sacrifice de Christ, il nous dit qu'on a la vie éternelle. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai à dire là-dedans? C'est pas moi qui décide, c'est lui qui a décidé. Moi, je me l'approprie par la foi, puis là, je peux dire avec assurance, je suis sauvé. C'est merveilleux de pouvoir dire ça. Je parlais avec un homme une fois, puis qui se confiait dans sa religion, puis il me disait, ah, il dit, on va se voir au ciel. J'ai dit, ah oui, es-tu sûr de ça? Ben, il dit, à 99,9% des chances. Ben, j'ai dit, il y a 0,1% des chances que tu ne sois pas là. Mais j'ai dit, toi, je vais te dire, moi, sans te dire que je suis meilleur que toi, je ne suis pas présomptueux, je suis peut-être probablement pire que toi, mais moi, je peux te dire que je vais être là à 100%. Pas parce que je suis basé pas sur ma vie, je suis basé sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, puis elle est parfaite. Puis lui, il nous dit que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Donc, il y a deux fêtes qui durent 6 jours. Comme on a dit, les fêtes qui durent un jour représentent l'œuvre de Dieu accomplie parfaitement sans avoir besoin d'être répétée. Comme la Pâque, la mort de Christ n'a jamais besoin d'être répétée. C'est une seule fois qu'il est mort pour les péchés, puis il vit éternellement. Aussi, on a la fête des prémices qui représente la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Une seule fois, le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. Puis il est les prémices de ceux qui viennent après. La Pentecôte, c'est une fête qui dure une journée. La Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit, qui représente la descente du Saint-Esprit qui vient former l'Église dans un corps. Puis ça c'est une seule fois. Des gens qui nous parlent du baptême du Saint-Esprit comme des expériences qu'on vit après notre salut en Christ. Non, c'est arrivé, c'est historique le baptême du Saint-Esprit. C'était le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit a baptisé les croyants, mais cette vérité-là devient nôtre. On entre dans cette vérité-là au moment de notre salut. Paul nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas non plus. Donc, ce n'est pas une expérience à rechercher comme une deuxième expérience, mais c'est une expérience qu'on a au moment où on a été baptisé dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, dans le moment où on a mis notre confiance au Seigneur Jésus-Christ. La fête des trompettes aussi, c'est une fête qui durait une journée, parce que ça nous parle du rassemblement d'Israël qui n'est pas encore arrivé, on verra à ce moment-là, mais le rassemblement d'Israël qui va arriver un jour, ça va être la fête des trompettes. Puis, il y a le jour des expiations. Les jours des expiations, c'est quand ça va être la réconciliation future d'Israël. Ce n'est pas encore arrivé. Ces fêtes-là, les trompettes et l'expiation, ainsi que les tabernacles, c'est des fêtes qui s'accomplissent pour Israël seulement et pas pour nous autres. Donc, ces fêtes-là, ils vont durer une journée. Puis la réconciliation d'Israël, ça va être en un jour. Il dit qu'une nation naîtrait en un jour. C'est quand cette nation-là va naître spirituellement, quand finalement ils vont, à travers toutes les circonstances qu'ils vont vivre dans la tribulation, ils vont reconnaître que celui qu'ils ont percé et leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ, et nationalement, toute la nation qui va avoir survécu la tribulation, c'est qu'il va y avoir les deux tiers qui vont mourir durant la tribulation, puis il va y en avoir un tiers qui va rester, et ce tiers-là va passer au travers du feu, mais qu'ils vont venir à la fin, à reconnaître leur Messie, le Seigneur Jésus-Christ, puis ils vont être réconciliés à lui, toute la nation en un seul jour. Une conversion. Vous savez, notre conversion, ça se passe un à un, des fois, Merci Seigneur, comme il y en a qui peuvent être sauvés, le mari et la femme, en même temps. Mais habituellement, on est sauvés un par un. C'est individuellement, chacun de nous autres individuellement. Mais quand Israël va tout être réconcilié avec son Messie, ça va être la nation au complet en un jour qui vont se réconcilier à leur Messie. Tout ensemble, ils vont reconnaître, ils vont voir celui qu'ils ont placé, puis ils vont mettre leur confiance en eux autres. Mais les fêtes qui durent 6 jours, ça, c'est une période complète et parfaite. C'est le résultat de l'œuvre accomplie par le Seigneur dont nous pouvons jouir dans notre vie ici-bas. Ça continue pendant notre vie ici-bas et même dans l'au-delà. Vous savez, la vie éternelle, ça commence quand, au moment où on est sauvé, mais ça dure éternellement. Donc, à cause d'une œuvre accomplie parfaitement par le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on commence une nouvelle vie et c'est une vie qui va durer une période parfaite, une période de 7 jours. Puis il y a la fête des pains sans levain. Ça, c'est la communion avec Dieu qui découle du sacrifice de Christ, qui est basé sur la sincérité. On va voir ça en regardant les versets dans le Nouveau Testament, qui est basé sur la sincérité, la sainteté, la vérité. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui pensent pas, ils n'ont pas une grande pensée pour la sainteté, la sanctification, la sincérité. Ça, c'est vraiment important dans notre relation avec Dieu. Vous savez, dans la religion, on vivait pas dans la vérité, puis dans la sincérité, puis dans la sainteté. On faisait notre devoir, on allait à la messe, on faisait qu'est-ce qu'on avait à faire, puis après ça, on vivait notre vie comme on voulait. Fait qu'il n'y avait pas la réalité de la relation, mais la relation avec le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, notre agneau qui a été immolé pour nous, eh bien, cette vie-là doit se vivre dans la sincérité, la sainteté, la vérité. On sait que celui à qui on est venu, il nous connaît. Il nous connaît même dans nos pensées. Il nous connaît dans nos actions, dans nos paroles, mais il nous connaît même dans nos pensées. Donc, la vie chrétienne se vit pas dans les rituels. Les rituels, on peut faire tous ces rituels-là sans que notre cœur soit impliqué. Le Seigneur disait d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, il faisait des choses. Puis, même nous autres, c'est un avertissement pour nous autres. Vous savez, des fois, quand on prie le Seigneur, on se fait des formules. Okay? On ne dit pas des « Je vous salue Marie », mais des fois, on se fait des formules. On arrive devant le Seigneur, puis il y a une série de mots qu'on peut dire sans penser. Mais si on peut les dire sans penser, là, pensons à ne pas les dire, parce que ça ne donne rien de les dire. C'est quand on parle au Seigneur, c'est comme si je m'adresse à vous autres, puis que je ne pense pas à ce que je dis, ça me donne quoi? Je ne communique pas ce qui est dans ma pensée. Mais quand on vient avec le Seigneur, lui, il veut qu'on exprime la pensée de nos cœurs. Puis ça, c'est vraiment important. Cette relation-là, elle est supposée d'être dans la sincérité, dans la sainteté, dans la vérité. On doit tous rechercher la sanctification, il nous dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, cette sanctification-là est progressive. Elle continue, on continue d'avancer dans cette sanctification-là. Nos vies sont changées de jour en jour à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette relation-là, des pains sans levain, ben, c'est la jouissance est basée sur la relation est basée sur le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert lui-même comme un agneau. Puis les pains sans levain, mais c'est la jouissance de cette communion-là qui est donnée pour nous, que le Seigneur Jésus s'est donné pour nous sur la croix du Calvaire. C'est pour ça qu'on voit que la fête des pains sans levain, là, est liée de très près avec la Pâque. Elle commençait au moment où la Pâque était immolée, commençait cette fête-là. Puis même était tellement liée que souvent on peut interchanger le terme. Puis on le voit même dans le même verset, dans Luc 22, au verset 1, il nous dit la fête des pains sans levain, appelée la Pâque approchait. Voyez-vous, on voit que les termes, même là, c'était tellement proche, ces deux fêtes-là, ça commençait avec la Pâque qui était immolée une fois le 14e jour du mois, puis commençait, était immolée le soir, entre les 2 soirs, comme on avait vu. Et à ce moment-là, commençait la fête des pains sans levain. C'est à ce moment-là, quand ils immolaient la Pâque, Israël, on voit qu'ils devaient le faire avec le bâton à la main, les souliers aux pieds. Ils étaient prêts à partir. Parce qu'aussitôt qu'ils ont immolé la Pâque, même le pain, ils ont pris le pain dans leur pétrin, puis ils ont enveloppé ça, puis ils ont parti. Ils ont parti d'Égypte. Il fallait qu'ils partent au moment même où la Pâque était immolée. Ça veut dire que la vie chrétienne débute au moment du salut. C'est une vie qui a commencé. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, parce qu'on commence une nouvelle vie, puis on commence avec au moment de notre salut, on a des désirs qui sont différents, on a des appétits qui sont différents, parce qu'on est né de nouveau spirituellement. Les choses, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés. C'est lui qui nous a donné cette vie-là maintenant qui vit en nous, la vie de Christ qui vit en nous, qui commence. C'est pour ça que c'est un peu comme un enfant qui vient de venir au monde, là, au commencement de sa vie, il y a un appétit. Puis s'il n'y a pas d'appétit, il y a un problème. Parce que moi, quand mes enfants sont nés, ben, je ne voulais pas manquer ça, là, mais je faisais ça avec tous mes enfants. Aussitôt qu'ils étaient nés, qu'ils arrivaient, là, je mettais mon doigt sur leur joue. Puis quand je mettais mon doigt sur leur joue, ils se tournaient tout de suite parce qu'il y avait le réflexe, on voyait qu'ils désiraient le lait. Ils voulaient manger. Il y avait un appétit maintenant qu'il n'y avait jamais eu auparavant, mais il y avait un nouvel appétit maintenant à cause de cette nouvelle vie-là qui était en eux. Donc, comme Pierre nous dit, 1 Pierre 2, verset 1 à 3, il dit, rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voyez-vous, ça commence au moment de notre salut, le désir qu'on a. Puis c'est vrai, on a eu tout d'un coup un désir spirituel, un désir de la nourriture spirituelle qu'on n'avait pas auparavant parce qu'on était mort dans nos péchés. Mais maintenant, avec cette vie nouvelle-là, on a un nouvel appétit pour les choses spirituelles. Puis, je disais ça avec quelqu'un qui était sauvé. Ça faisait pas longtemps qu'il était sauvé. Puis, on parlait des choses du Seigneur, des choses spirituelles. Puis, je lui disais à lui, j'ai dit, tu sais, la joie qu'on a présentement. Puis, il savait, on avait de la joie dans notre cœur. Hein, quand le Seigneur parlait avec ses disciples, il dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous pendant qu'en chemin, il nous expliquait les choses bien, c'est qui le concernaient. Bien, c'est ça que quand on a cette vie nouvelle-là, maintenant, on a un nouvel appétit spirituel. Puis, on désire ces choses-là. C'est important, c'est pour ça que le Seigneur, il nous donne tout de suite. Il y avait l'agneau, on voit ça, puis aussi, il y avait des pains sans levain. On va voir, là, notre temps est pas mal arrivé à la fin. On va s'arrêter là pour ce soir, mais on va continuer. On va voir comment est-ce que cette nourriture-là, maintenant, le pain sans levain, c'était vraiment important. Mais juste une chose que je voulais vous dire par rapport à la Pâque. Il y a trois choses. Le sang les rendait sécures. La parole leur donnait l'assurance. Parce que Dieu avait dit que si le sang était là, l'ange passerait par-dessus. Donc, le sang leur donnait la sécurité. Mais la parole de Dieu leur donnait l'assurance. Puis, l'agneau dans lequel ils se nourrissaient maintenant leur donnait la joie. Puis, c'est ça, la vie chrétienne. Le sang qui a été versé pour nous nous donne la sécurité, la parole de Dieu nous donne l'assurance, l'agneau qui dans lequel on se nourrit nous donne la joie. Vous savez, dans le salut, là, il y a des faits. On met notre foi dans les faits que Dieu a dit, puis on a les sentiments. Faut pas, les sentiments, c'est une bonne chose, mais il faut qu'ils soient dans la bonne façon. Vous savez, il y a des gens qui ont un petit peu comme ça ici, là, j'ai fait ça. Ça se trouvait à l'envers pour vous autres, j'aurais dû l'écrire à l'envers. Mais ça, c'est ici, on a les faits, la foi, puis on a les sentiments. Ceux qui sont basés sur leurs sentiments, bien, sont facilement ébranlés. Mais vraiment, il faut que les choses soient ainsi. Donc, le fondement, c'est les faits. On met notre foi dans les faits. Ensuite, on a la joie de notre salut. Il y avait quelqu'un à qui j'avais parlé du Seigneur, puis j'ai dit ça, il dit qu'il avait accepté le Seigneur, mais il dit, tu sais, tu m'avais dit que j'allais avoir de la joie quand je croirais, puis je n'ai pas eu cette joie-là. J'ai dit, si tu étais assuré que tous tes péchés sont pardonnés, puis que tu allais passer l'éternité dans le ciel avec le Seigneur pour toujours, puis qu'il n'y a rien qui pouvait changer ça, aurais-tu de la joie? Il dit, ben oui. Ben, j'ai dit, tu ne peux pas t'attendre d'avoir la joie avant d'avoir l'assurance. Puis c'est ça, l'assurance, c'est quand on met notre foi dans les faits, si on est bien basé sur les faits, ça c'est solide. On met notre foi dans ces faits-là, qu'est-ce que Dieu a dit? Maintenant, on a les sentiments, c'est-à-dire qu'on a la joie de notre salut. Donc, c'est important de mettre les choses à la bonne place. Fait que je vais m'arrêter là. On continuera pas la semaine prochaine. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, on va être à Rivière-du-Loup, Seigneur voulant, en présence avec l'Assemblée de Rivière-du-Loup. On va diffuser sur Zoom pour vous autres, ceux qui pourront pas être là. Ça va être Mike Atwood qui va être avec moi, qui lui va parler en anglais et je vais le traduire en français pour vous. Donc, ceux qui parlent anglais, ils pourront l'entendre dans sa langue, mais moi, je le traduirai pour vous autres. Donc, la semaine prochaine, on a quand même une étude. Ce ne sera peut-être pas sur les fêtes, mais on va avoir une étude. Ensuite, on continuera sur les fêtes. Donc, maintenant, je vous donne la possibilité de pouvoir de prendre votre micro, puis si vous avez des commentaires ou des questions, on va passer à ce temps-là. Donc, je vous donne la parole maintenant.
J'aurais trois questions, Gérald.
Ah, OK, oui.
Quand on parle de l'agneau qui est rôti, il est rôti avec l'intérieur, donc il n'est pas éviscéré.
Non, non.
OK.
Mais ça représente le Seigneur Jésus-Christ, puis il ne devait pas être bouilli non plus, parce que ça parle qu'il vraiment il a passé le jugement. Le Seigneur Jésus-Christ a passé le jugement de Dieu dans le feu, puis toute la personne entière du Seigneur Jésus-Christ.
OK, merci. La deuxième, en fin de compte, concernant Romains 6,3, baptisé en Jésus-Christ, en fin de compte, on pourrait dire que c'est le baptême du Saint-Esprit.
Ben, ça, c'est le baptême dans la mort, mais au même moment, on a eu aussi le baptême. Le baptême du Saint-Esprit est arrivé dans Acte 2. C'est un fait historique, le baptême du Saint-Esprit. C'est là que la naissance, comme Israël sont devenus une nation à la Pâque, l'Église est devenue un peuple dans la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Mais au moment qu'on est baptisé dans la mort, puis dans l'ensevelissement, puis la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, on entre dans la réalité de cette vérité-là, on est placé dans le corps de Christ. Donc, on est au bénéfice de ce baptême-là qui est arrivé dans Acte 2.
Et la dernière, peut-être qu'il y aura sujet un petit peu, mais on lit dans les Écritures ceux qui se faisaient baptiser pour les morts.
OK, ouais.
Alors, peux-tu en parler un petit peu?
Ouais, bien, ceux qui se faisaient baptiser pour les morts, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous disent aujourd'hui. Comme les Mormons, ils se font baptiser pour des gens qui étaient soit de leur famille, mais on sait que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas par le baptême qu'on est sauvé. Donc, il faut, c'est un passage qui est un peu difficile, mais selon le contexte du passage que Paul nous parle là, il nous parle de ceux qui, dans 1 Corinthiens 15, qui nous parle de ça, mais c'est à cause des persécutions. Puis, c'est dans le contexte des persécutions. C'est un peu l'explication que moi, je vois dans ce passage-là. C'est que ceux qui se font baptiser pour les morts, c'est que ceux qui se faisaient baptiser, souvent, ils mouraient. Puis les autres continuaient quand même de se faire baptiser. Parce que c'est à cause de l'espérance qu'on a au-delà de la mort. Donc, ils prenaient les rangs de ceux qui étaient morts, qui s'étaient fait baptiser. Puis, ils se faisaient baptiser. Ça, dans le verset 29 de 1 Corinthiens 15, là. Il dit, et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Donc, il dit, c'est mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc, se faire baptiser pour les morts, ça veut dire que même si la mort Parce que dans les temps de persécution, c'était au moment du baptême que les gens étaient persécutés, puis même étaient tués. Donc, si on n'a pas une vue au-delà de la mort, on ne serait pas baptisé. On ne suivrait pas ceux qui sont faits baptiser puis qui sont morts. Mais c'est ça que ça veut dire, le baptême pour les morts. Ils ne se faisaient pas baptiser pour que les autres reçoivent une grâce. Mais ils se faisaient baptiser parce que les autres, même s'ils étaient morts, eux, ils se faisaient baptiser pareil. Ils prenaient les rangs de ceux qui s'étaient fait baptiser pour recevoir des fois la même situation.
Merci Richard. Pas Richard, mais Gérard.
Regarde.
Parler, Gérald, de la position de premier-né et de. C'est pas nécessairement le premier qui naît, là, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Parce que dans la Bible, le premier-né n'est pas nécessairement celui qui est né en premier. Parce qu'on voit que souvent, c'était pas comme Joseph est devenu le premier-né pour la famille, mais c'était pas lui qui était né en premier. C'est lui qui avait la bénédiction. Jacob aussi a pris la place du premier-né, mais c'est pas lui qui était né en premier. Puis on voit souvent comme ça, parce que c'est un principe, souvent dans la parole de Dieu, la bénédiction vient du deuxième. Parce que Adam était le premier. On a la malédiction en Adam, mais Christ comme deuxième homme. Et c'est en lui qu'on a la bénédiction. C'est lui qui est devenu le premier-né de cette nouvelle création-là.
Dans les psaumes, je crois, mais je n'ai pas trouvé, on parle de David comme étant le premier aussi.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est celui qui détient, c'est à lui qui est donné la bénédiction pour le reste. C'est toujours en vue du reste. Ouais. Par rapport au Christ, ben c'est lui qui détient la bénédiction de Dieu pour toutes nous autres. Comme toutes les bénédictions spirituelles dans Éphésiens 1, on les a eues au moment où on s'est placé par la foi en Christ. Mais avant ça, on n'avait pas le pardon des péchés. Il n'y avait aucune de ces bénédictions-là. On n'était pas scellés du Saint-Esprit. Tout c'est venu au moment où, par la foi, on s'est placé dans le Seigneur Jésus-Christ.
Par rapport au baptême du Saint-Esprit, pourquoi dans Actes, quand Pierre est allé voir les païens, là,
Ouais.
il disait qu'il y avait eu la flamme qui était descendue sur eux aussi, mais
Ah,
pas en même temps que les apôtres?
ouais, c'est ça, c'était les. Parce qu'on voit que quand le baptême du Saint-Esprit, dans Acte 2, on voit que les disciples ont été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Il y a des langues de feu qui sont venues, mais c'est Paul qui a vu à Éphèse. C'était des croyants comme qui représentaient des disciples de Jean, qui représentaient les croyants de l'Ancien Testament. Puis il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit au moment où vous avez cru? Puis il dit, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Il n'y avait pas eu l'enseignement, puis Paul leur a donné l'enseignement pour qu'ils. Puis on voit que c'est cette fois-là. Puis aussi Corneille, dans le chapitre 10 des Actes, Corneille, au moment où ils ont reçu Saint-Esprit. On voit que quand ils ont cru, ils ont reçu Saint-Esprit. Les païens, maintenant, entraient dans le baptême du Saint-Esprit. Puis Paul, il dit, pas Paul, mais Pierre, il décrit quand il dit à ceux qui ont demandé comment ça se fait qu'il était allé chez les païens. Puis il dit, le Saint-Esprit, quand je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Donc on voit que ce n'était pas une expérience qui se répétait toujours. Mais c'était comme sur nous au commencement. Donc, il se référait au baptême du Saint-Esprit dans Acte 2. Et c'est que les païens, maintenant, c'était important que les païens entrent dans l'Église sur le même pied d'égalité que les Juifs. Parce que dans Acte 2, c'était des Juifs. Mais là, les païens entraient. Puis c'est pour ça que Paul dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'unité des croyants en un seul corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que c'était important. Puis on a les Juifs, les disciples du Seigneur Jésus-Christ dans Actes 2. On a les croyants à Éphèse, qui étaient des disciples de Jean, comme les disciples de l'Ancien Testament. Puis Corneille, qui représente les païens comme nous. Donc, dans l'Église, les Juifs n'ont pas une supériorité, on est tous sur le même pied d'égalité.
On fait comme si Dieu avait confirmé à Pierre par ça que c'était le Dieu qui recevait le Saint-Esprit.
Ouais, c'est ça. Comme, et puis c'est bien important de réaliser que Pierre, il dit comme sur nous au commencement. Donc, c'était pas, il dit pas comme ça nous arrive à nous autres, mais comme ça nous est arrivé. Donc, ça représente, ça démontre que c'est pas une expérience qui se faisait tout le temps. C'était, le Seigneur avait dit à Pierre que je te donne les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera délié. C'est lui qui a ouvert la porte dans Acte 2 aux Juifs, puis il a ouvert la porte aussi aux païens dans Acte 10.
On a deux beaux versets dans ce sujet-là, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13, justement, qui explique un peu ça. 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés dans notre esprit.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un bon verset pour nous montrer ça. Puis l'enseignement de Paul ensuite de ça dans Éphésiens, à la fin d'Éphésiens 2, puis le chapitre 3 d'Éphésiens nous montre qu'il n'y a aucune différence. On est tous des membres du corps de Christ. Il a fait des deux un seul, ouais, un seul homme nouveau. Donc bien, on est arrivé à l'heure. On va peut-être terminer par un mot de prière pour que ceux qui doivent partir. Mais si on veut continuer à parler, on est encore là on est encore disponible. Mais on va juste pour ceux qui doivent partir, on va terminer par un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ces grandes vérités que tu nous as données dans ta parole, Seigneur. On te demande que tu nous apprennes à vivre dans la réalité de cette expérience merveilleuse que nous avons vécue au moment de notre salut. Seigneur, il y a plusieurs choses qui se sont accomplies au moment où on a mis notre confiance en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. On te demande, Seigneur, qu'en les découvrant, qu'on puisse vivre dans la réalité de ces choses, de vivre cette vie nouvelle, Seigneur, que tu nous as communiquée par l'offrande de notre agneau pascal, le Seigneur Jésus-Christ. Et on te remercie. Maintenant, on veut se nourrir de lui en avançant dans notre vie chrétienne. Fait qu'on te remercie, Seigneur. Bénis chacun ce soir. Puis on te prie pour nous ramener encore, Seigneur voulant, lundi prochain pour qu'on puisse passer ce temps-là ensemble. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.